Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'affaire Viguier. Suzanne Viguier, qui disparaît au mois de mars de l'an 2000 à Toulouse. L'enquête a duré 9 ans. Et pendant 9 ans, tout le monde a cru que Suzanne avait été tuée par son mari, Jacques Viguier, professeur de droit. Mais ça n'est pas la vérité judiciaire de cette histoire, qui confirme la grande idée de la cour d'assises que le doute doit profiter à l'accusé. Pour le débrief tout à l'heure, j'ai fait appel à maître Jacques Lévy du barreau de Toulouse, qui était l'un des avocats de Jacques Viguier. J'ai écrit cette histoire avec Okis, la réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le mercredi 1er mars 2000 au matin, à Toulouse, un homme se présente au commissariat des Ormeaux. Il vient signaler la disparition de sa femme. Et vous vous appelez comment, monsieur ? Jacques Viguier. Je suis professeur de droit à la faculté. Et depuis quand elle a disparu, votre femme ?
Depuis dimanche matin.
Dimanche ? On est mercredi. Ça fait 4 jours, ça.
Ça vous a pas inquiété ?
Avant ?
Ah, en vérité, je suis pas très inquiet. Enfin, je pense qu'elle a voulu me donner une leçon pour que je sache ce que c'est que s'occuper des enfants, tout ça. Mais c'est vrai que là, 4 jours, ça dure, quoi.
Le policier lui demande s'il a téléphoné à ses amis, aux hôpitaux, s'il s'est déjà un peu remué.
Ah non, non. En fait, c'est l'ami de ma femme qui a fait les démarches, quoi.
L'ami de sa femme? Bon. La policière lui tend alors un formulaire à remplir pour déclarer ce qu'on appelle une disparition inquiétante. Même si pour l'inquiétude, il faudra repasser. Il remplit. Suzanne Viguier, 38 ans, profession professeur de danse. Et puis en bas du formulaire, il y a une partie commentaire. Il hésite un peu. Et puis il écrit. Suzanne a un tempérament fragile. Elle est un rien dépressive. Et puis, il lui rend le formulaire et le stylo. Et il s'en va. Là où ça se complique, c'est qu'une heure plus tard, un autre homme, plus jeune, la trentaine, vient dans le même commissariat signaler la disparition de la même femme. À cette différence près que celui-là, il est au bord des larmes. C'est l'antithèse du premier. Il s'appelle Olivier Durandet. Et c'est lui l'ami de Suzanne Viguier.
Il a dû arriver quelque chose de très grave à Suzy. Je vous en supplie. Laissez-moi parler à un de vos supérieurs. J'ai beaucoup de choses à dire.
Il a l'air vraiment en stress. Et donc un officier le reçoit dans un bureau.
Je connais bien les Viguier. Je suis leur ami. Enfin, surtout l'ami de Suzy. Et Suzy, elle peut pas être partie comme ça, sans rien dire. Elle m'aurait appelé. Elle aurait appelé les enfants.
Monsieur Durandet, soyez clair avec moi. Vous dites que vous êtes l'ami de Madame Viguier. L'ami commun.
Disons que le couple Viguier bat de l'aile. Et je suis l'amant de Suzanne. Voilà. C'est clair comme ça. Mais j'aimerais bien que ça se sache pas.
Ça, on verra. Qu'il ne se fasse pas trop d'illusions. D'après ce qu'il dit, ça fait 2 ans que les Viguier font chambre à part. 2 ans que quand ils se croisent, c'est pour s'engueuler. Suzanne voulait divorcer et lui pas. Et maintenant, elle a disparu.
Bon, très bien, monsieur. Je vais vous demander de signer ici. Là, voilà. Écoutez, en fait, je pense que Jacques Viguier a commis l'irréparable.
Vous voulez dire que Monsieur Viguier aurait tué Madame Viguier ?
Oui. Oui, c'est ce que je pense.
C'est pile à ce moment-là que commence cette affaire. L'amant accuse le mari d'avoir tué sa maîtresse, Suzanne Viguier. Waouh ! Les policiers alertent illico le procureur, qui prend la bonne décision. Il convoque les deux hommes dans son bureau. Enfin, il essaye. Parce que malheureusement, Jacques Viguier est au ski, avec les enfants. Il ne peut pas venir, enfin pas tout de suite. Au ski, alors que sa femme, la mère de ses enfants, a disparu. Olivier Durandet, en revanche, l'amant, enfin l'ami, il ne rêve que de ça, parler au procureur. Mais voilà, le samedi, j'étais avec Suzanne, à Montauban, pour un tournoi de tarot. C'est comme ça qu'on s'est connus, en jouant au tarot. Le temps d'amener le petit au bout, ça leur a pris, dit-il, la journée et la soirée. Il dit qu'il a ramené Suzanne chez elle, rue des Corbières, à 4h30 du matin. Et depuis, j'ai aucune nouvelle. Dimanche, je l'ai appelé, 20 fois. Pas de réponse. Alors, je suis passé 2 fois, rue des Corbières. Mais les volets étaient fermés. Alors, j'ai fini par appeler Jacques. Bon, il n'avait pas l'air inquiet, pas inquiet du tout. Il m'a dit que oui, il avait remarqué son absence, mais que, ça ne l'inquiétait pas. Je lui ai demandé si les enfants n'étaient pas inquiets, eux. Il m'a répondu, ils ont l'habitude, en me disant que la présence de Suzy n'était pas sa qualité principale. Il raconte qu'il est retourné sonner chez les Viguier le lundi matin. Jacques était là. Et il m'a ouvert. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, elle est partie pour m'emmerder. Il dit qu'à ce moment-là, ils sont allés tous les deux jeter un œil dans les affaires de Suzanne. Et là, c'est important ça. J'ai remarqué que dans la salle de bain, il y avait sa trousse de toilette grande ouverte. Et il y avait ses lunettes. Et il y avait son liquide de lentilles de contact. Tout était posé là, sur le bord du lavabo. Mais Suzy est myope. Elle serait pas partie sans tout ça. Je vous dis qu'il l'a tuée. C'est peut-être un brillant professeur de droit, mais c'est par ailleurs un homme capable d'une grande violence. Sauf que ça, il va falloir le prouver. Et là, je m'arrête 2 secondes, parce que j'ai bien conscience que dans votre tête, il y a un truc qui coince. Qu'est-ce que c'est que ce ménage à trois, ce trouble ? L'amant qui va tranquillement chez le mari et qui va fouiller la salle de bain, il ne lui met pas son poing dans la gueule ? Eh bien non, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, on va s'en apercevoir au fil de l'enquête, mais je vous mets tout de suite au parfum. Jacques Viguier fait l'autruche depuis des années. Il ne veut pas voir que Durandet est l'amant de sa femme. Il ne peut pas le concevoir. Enfin, sa femme, couchée avec un représentant de commerce grassouillé. Impensable. Alors qu'il est lui-même mince, sportif, brillant, professeur d'université. Impensable. Et donc, il feint de croire que Olivier est un ami. Juste un ami. Et l'autre, figurez-vous, a ses chaussons chez les Viguier, au sens propre. Une paire de charentaises qu'il enfile chaque fois qu'il vient. Et du coup, les enfants, Camille qui a 11 ans, et les jumeaux Nicolas et Guillaume qui ont 8 ans, l'adorent. Voilà, vous êtes au parfum. Cette histoire est aussi une belle histoire de corne-cul. Évidemment, à un moment donné, Jacques Viguier rentre du ski et il est placé en garde à vue. Et avant, les flics perquisitionnent l'appartement du 19 rue des Corbières à Toulouse, leur appartement. Et là, ils pulvérisent du luminol un peu partout dans l'appartement. C'est un produit génial parce que quand on éclaire avec une lumière spéciale, ça révèle les taches de sang, même celles qu'on a tenté de faire disparaître. Oh, du sang, il y en a partout. Et c'est pas fini. Dans la chambre de Suzanne, ils ouvrent le canapé qui lui servait de lit. Ils le déplient. Il n'y a pas de matelas. Alors ils se tournent vers Viguier, qui est là. Dites, monsieur Viguier, il est où le matelas? Le matelas? Je l'ai jeté, il y a 2 jours. Vous l'avez jeté. Et pourquoi donc? Je l'ai jeté dans une déchetterie à Toulouse. Suzanne le trouvait inconfortable. Moins. On est d'accord. Ça passe moyen comme explication. Ce qu'on imagine plutôt à ce moment-là, c'est que petit 1, il savait qu'elle ne reviendrait plus dormir, et que petit 2, ce matelas devait être taché de sang. C'est pour ça qu'il s'en est débarrassé. Bref, cette histoire de matelas ne joue pas en sa faveur. Mais il n'y a pas que ça. Au fond d'une armoire, les policiers tombent sur le sac à main de Suzanne. Dedans, il y a même ses clés de maison. Dites, monsieur Viguier, vous n'avez jamais parlé, là, de ce sac à main. Et les particelles sur le sac à main, vous l'avez jamais dit, ça. Alors, oui, figurez-vous que ce sac, je l'ai découvert hier. Je savais pas qu'il était dans cette armoire. Je l'ouvre jamais, cette armoire. Et donc, je l'ai trouvé hier et... Mais j'ai oublié de vous en parler. Il s'enfonce, le monsieur. La suite se passe en garde à vue à la PJ de Toulouse. Cette nuit-là, monsieur Viguier, vous avez entendu votre femme rentrer? Oui, j'ai entendu du bruit vers 4h30, oui. J'ai supposé que c'était Suzy qui rentrait. Et le matin? Le matin, je me suis levé à 8h, j'ai déjeuné avec les enfants. Et votre femme? Suzanne, elle dormait, bien sûr. Comme à chaque fois qu'elle rentre tard. Vous savez, elle peut dormir jusqu'à midi, hein. Et après? Et après, mon père est venu chercher les enfants. Ils sont partis vers 10h30. Et moi, je suis allé faire un jogging. J'ai couru 1 heure. Et je suis rentré vers 11h30. Et votre femme dormait toujours? J'ai pas vérifié. Mais c'était silencieux dans la chambre. Et là, j'ai pris une douche et je suis allé rejoindre mes enfants chez mes parents pour déjeuner. Et on est resté là-bas tout l'après-midi. On a dû rentrer à la maison un peu avant 21h. Et votre femme, à ce moment-là, partie. La chambre était rangée, le canapé était replié, elle n'était plus là. Quand on regarde le relevé de son portable, il y a un petit problème avec le jogging de 10h30. Il a appelé ses parents à 10h45. Il ne l'a pas fait, ce jogging. Voilà ce que pensent les policiers. C'est à cette heure-là qu'il l'a tué. Il est seul chez lui, il a 1 heure devant lui, avant d'aller déjeuner chez ses parents. 1 heure pour la zigouiller et faire disparaître le corps et le matelas taché de sang. Mais la garde à vue s'écoule. Et Jacques Viguier ne craque pas. Et à la fin, il faut bien le relâcher. Mais son téléphone est mis sur écoute. Et les policiers sont consternés par ce qu'ils entendent.
Oui, moi ce qui peut me porter tort, si tu veux, c'est qu'on retrouve pas Suzy, quoi. Vivante ou morte. Tu sais très bien que si on la retrouve vivante, bon, je suis tranquille. Et si on la retrouve morte, ben... Enfin, moi, j'ai aucun problème. Moi, je demande pas mieux, tu vois. Vivante, c'est mieux pour les enfants. Mais qu'on la retrouve morte pour moi, bon... Tu comprends, ça serait très bien. Hein.
Il sait très bien qu'il est sur écoute. Alors, il fait le mariole. Pendant ce temps-là, la presse se régale de cette affaire. La passion sans foi ni loi du professeur de droit. La défense tordue du prof de droit. Un éminent juriste suspecté d'assassinat. La presse l'a déjà enterré. Et dans les articles, on lui fait le portrait. Jacques Viguier est décrit comme un bourgeois toulousain, fils de bourgeois, son père était professeur de médecine. On insiste sur sa passion pour Alfred Hitchcock. Et on raconte qu'en tant que prof de droit, il a consacré un de ses cours au crime parfait. Entre nous, si c'est lui, entre les lunettes sur le lavabo, le canapé sans matelas et le sac à main au fond de l'armoire, il me paraît assez peu spécialiste du crime parfait. Passons. Entre autres gentillesses, on écrit sur lui qu'il est vaniteux, insensible et arrogant. Quand je vous dis que les journalistes l'ont déjà enterré. Et il le traque, bien sûr, pour l'interviewer. C'est rare de pouvoir interviewer un assassin en liberté. Et Viguier parle à la presse. Moi, je pense que ma femme a très bien pu rejoindre une secte. Ou alors, elle s'est laissée embringuer par n'importe qui. Vous savez, Suzanne, elle est très influençable. Elle était fragile. Elle était dépressive, en vérité. À part ça, sa femme avait un amant, et lui a des maîtresses. Une collection de maîtresses. Essentiellement, des étudiantes. Quand il fouille son bureau à l'université, les policiers tombent sur des dizaines de numéros de téléphone d'étudiantes. Et dans un tiroir, il trouve des capotes. Eh bien oui, j'ai eu des maîtresses. J'en ai depuis le lendemain de mon mariage. Mais vous savez, c'est comme ça que j'ai rencontré Suzanne. Elle était en première année. J'étais son prof, son jeune prof, mais c'était mon élève. Bon. Ça n'est pas très moral, tout ça, mais ça n'en fait pas un tueur. Il n'y a pas que la presse qui accable Viguier. Une bonne partie de son entourage, encouragée par l'amant, le pense coupable. À commencer par les sœurs de Suzanne et ses amis. Il n'y en a qu'une qui ne le lâche pas. Et ça va vous surprendre. C'est sa belle-mère, la mère de Suzanne. Elle dit que son gendre n'y est pour rien. Elle le défend becs et ongles. La belle-mère de rêve. Mais il y a une raison à ça. Et c'est une histoire dans l'histoire. Un de ces détails qui rend cette affaire absolument singulière. Figurez-vous que la mère de Suzanne a déjà vécu une affaire similaire il y a 54 ans. Et quand je dis similaire, c'est l'histoire d'un homme accusé d'un meurtre à cause d'un matelas. C'était en février 1946, juste après la guerre. Elle était enfant. Et un jour, la police est venue sonner chez eux. On avait trouvé le corps de sa mère dans la rue, assassiné. Et les policiers ont demandé à son père « Où étiez-vous ?» Et il a répondu qu'il était au lit. Et un policier est allé vérifier. Il a passé sa main sous les draps. Le matelas était froid. Et on en avait conclu que son père avait tué sa mère. Ça a duré des mois, jusqu'à ce qu'on finisse par l'innocenter. Mais la mère de Suzanne n'a pas pour autant oublié. Et voilà que maintenant, on accuse son gendre d'avoir tué sa fille à cause d'un matelas. Elle se dit que ça recommence. Alors, elle soutient son gendre. Pour l'instant, Jacques Viguier n'a pas craqué. Tout le monde pense qu'il a tué sa femme, mais lui reste droit dans ses bottes. Mais a-t-on besoin de ses aveux? Les résultats des expertises viennent de tomber. Les traces de sang dans la maison, et notamment le sang trouvé sur une housse de traversin et sur un basket de Jacques, c'est le sang de Suzanne. Et il y a aussi du sang, mais cette fois-ci, celui de Jacques Viguier, sur son jogging et sur la housse du canapé lit, ce qui suggère qu'il s'est blessé en la tuant. Et comme on trouve aussi des traces des deux sangs mêlés, les policiers pensent à une bagarre Une dispute qui a mal tourné. Il serait peut-être temps de réinterroger Jacques Figuier. Cette fois-ci, c'est le juge d'instruction qui s'y colle. Ça dure 10 heures. Mais il ne craque toujours pas. Il patauge quand on lui demande d'expliquer pourquoi il y a du sang partout. Et donc il est mis en examen pour meurtre. Et il file en prison. À partir de là, le matelas de Suzanne se retrouve au cœur de l'enquête. Puisque je vous dis que je l'ai jeté parce que Suzanne le trouvait inconfortable. Un témoin nous a pourtant dit que ce matelas était neuf. Votre femme l'avait acheté il y a 3 mois. Et ben ça l'empêche pas de le trouver inconfortable. Et puis, bon, je l'ai jeté aussi parce que il représentait l'échec de notre couple. Voilà. Alors, le juge d'instruction organise une reconstitution du moment où il jette le matelas à la décharge, avec un matelas similaire. Et un matelas, c'est lourd, hein. Jacques Figuier a beaucoup de mal à le porter. Le juge ordonne aussi une reconstitution du fameux jogging de 10h30. Auquel, je vous ai dit, les policiers ne croient pas. Ils sont convaincus que c'est à cette heure-là qu'il l'a tué. Orgueilleux comme un paon, Jacques Figuier s'amuse pendant ce jogging. Il sème les policiers qui l'accompagnent. Et il boucle la boucle en une demi-heure. Là où il aurait mis 1 heure. Bilan, eh bien, il n'y a rien à tirer de cette reconstitution. Alors, mis bout à bout, le matelas, les taches de sang mêlées et l'improbable jogging, ça fait quand même ce qu'on appelle un faisceau de suspicion. Mais ça ne fait pas de preuve. Et du coup, après 9 mois de prison, Jacques Figuier est libéré. Ce qui ne veut pas dire innocenté, hein, libéré. Mais il marque un point. Et dans la foulée, ses avocats s'engouffrent dans la brèche. Il s'étonne notamment que l'amant Olivier Durandet n'ait jamais été soupçonné. Les policiers l'ont cru dès le premier jour. Or, lui aussi, il a eu le temps de la tuer. Alors, examinons le cas d'Olivier Durandet. Le samedi, il est avec Suzanne à ce tournoi de tarot à Montauban. Il dit qu'il la raccompagne chez elle à 4h30 du matin. « Vous avez joué au tarot jusqu'à 4h30 du matin, monsieur Durandet ?»« Ah, ben non, non. En rentrant du tournoi de tarot, on est allé chez moi. »« Et chez vous, qu'est-ce que vous avez fait ?»« Ben, enfin voilà, quoi. On a fait l'amour. »« Et après, vous l'avez ramené ?»« Oui, à 4h30. » Et pourquoi donc n'est-elle pas restée dormir chez lui, disent les avocats de Figuier. Elle qui découchait plusieurs fois par semaine. Est-ce qu'elles se sont disputées? On n'a pas interrogé les voisins. Est-ce qu'ils ont entendu du bruit? Et puis les avocats de Figuier, encore eux, font remarquer que la perquisition chez Olivier Durandet a eu lieu 10 jours après la disparition de Suzanne. Et qu'elle n'a duré que 2 heures contre une journée entière chez Figuier. Enfin, la défense de Figuier s'accroche à un détail dont je ne vous ai pas encore parlé. Le portefeuille de Suzanne Figuier, il n'était pas dans son sac à main. Il y avait les clés de chez elle, mais il n'y avait pas son portefeuille. Et ce portefeuille, il se trouve qu'on l'a retrouvé. Il a échoué aux objets trouvés, 13 jours après la disparition de Suzanne. Pendant des mois, la défense dit « il faut analyser ce portefeuille, il faut le confier à la police scientifique, il faut chercher de l'ADN, des traces ». Le juge d'instruction refuse. Et après, eh ben, il ne peut plus faire marche arrière parce qu'à un moment donné, le larfeuille a disparu disparu. Le greffe du palais de justice de Toulouse l'a envoyé par erreur à l'incinération. C'est ballot, hein, ça. Et c'est un sacré atout pour la défense de Jacques Viguier, qui n'en manque pas. Dans cette affaire, l'enquête a duré 9 ans, pendant lesquels l'accusé Jacques Viguier est demeuré la plupart du temps libre. Et maintenant, il faut le juger. Libre. Le procès de Jacques Viguier s'ouvre le 20 avril 2009 devant la cour d'assises de Toulouse. Et on retrouve face à face tous les protagonistes de cette histoire. C'est le ténor parisien Francis Piner qui est parti civil. Il défend les sœurs de Suzanne.
Si ça n'est pas le professeur Viguier, qui cela peut-il être? Ça n'est pas une fugue. Tout le monde sait que Suzy Viguier était attachée à ses enfants, qu'elle ne les aurait pas abandonnés. Et on prend rarement la fuite en laissant sa voiture, ses lunettes, ses affaires personnelles. Ça ne peut pas être un crime de cambrioleur ou de rôdeur, car on voit mal un cambrioleur et un rôdeur s'encombrer du cadavre. L'évidence, c'est que Suzy Viguier est morte, que c'était un acte criminel, et nous avons notre intime conviction.
Olivier Durand est l'amant, et là, lui aussi.
Moi, j'ai la conscience tranquille, et je vais à l'audience pour expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu au quotidien pendant 2 ans. Et voilà, encore une fois, moi, j'ai strictement rien à me reprocher, et j'y vais confiant et serein. Pourquoi j'aurais peur ?
Moment fort de ce procès, quand on exhume le journal intime de Clémence Viguier, la petite fille du couple. Elle avait 11 ans au moment des faits. Tout un chapitre est consacré aux colères de papa. Et pourtant, Clémence Viguier, qui a maintenant 20 ans, défend mordicus son père, comme ses deux frères. Ça pèse, ça. C'est le vieil Henri Leclerc, avocat de génie, qui défend Jacques Viguier. Il fait du très bon boulot. Et le 30 avril 2009, Jacques Viguier est acquitté.
C'est par une toute petite porte qu'ils sont sortis à l'abri des journalistes. Ils nous ont quand même dit, il nous a quand même dit quelques mots.
Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, et mes avocats, le jury et tous mes amis.
Colère des sœurs de Suzanne Viguier.
Je veux simplement dire une chose. Ils n'ont aucun respect pour Suzy. Ouais. C'est tout, c'est une honte.
Mais il y aura un autre procès, car l'avocat général fait appel. Jacques Viguier est rejugé 1 an plus tard devant les assises du Tarn. Et pour ce procès, Viguier apporte des changements à son équipe de défense. Il embauche Maître Lévy, l'un des ténors du barreau de Toulouse, et avec lui, le meilleur, acquittateur, Éric Dupont-Moretti. Et c'est un avocat qui est connu pour ne pas prendre de gants avec les témoins. La babysitter des Viguier, Céline, est appelée à témoigner à la barre. Son témoignage est important parce qu'elle est allée chez les Viguier 2 jours après la disparition de Suzanne. Et là, le grand Dupont est à la manœuvre.
Dites-moi, madame, est-ce que vous étiez seule ce jour-là ? Oui ? Enfin quoi, madame ? Je répète ma question. Est-ce que vous étiez seule ? Je vous rappelle que vous avez juré de dire la vérité. Est-ce que vous étiez seule, madame ? Non. Qui était avec vous, madame ? Olivier. Quel Olivier, madame ? Olivier Durandet. Ah ! Et pourquoi vous ne l'avez pas dit, ça, quand vous avez été interrogée à l'époque, madame ? Pourquoi vous n'avez pas dit que Olivier Durandet était avec vous, dans l'appartement de madame Viguier, 2 jours après sa disparition ? Il m'a demandé de ne pas le dire. Encore la semaine dernière, il m'a demandé de ne pas le dire. Mamma mia ! C'est du lourd, ça.
l'amant est allé sur place en secret 2 jours après. Et donc, en plein procès, Olivier Durandet se retrouve en garde à vue. Et ensuite, il vient s'expliquer à la barre.
Olivier Durandet est resté 5 heures à la barre, assumant ce qu'il appelle ses conneries, ses maladresses, quand il joue à l'apprenti Colombo en retournant dans la maison des Viguier après la disparition de Suzy avec la babysitter. Juste pour se rassurer, dit-il. Pas de quoi en faire un suspect, en tout cas pour être...
C'est la cerise sur le gâteau, cette histoire. Et donc, après 3 semaines de procès, Jacques Viguier est à nouveau et définitivement acquitté. Et le dossier de la disparition de Suzanne Viguier rejoint l'étagère des crimes non élucidés. Voilà pour cette histoire, l'une des plus célèbres de ce début de 21e siècle. Et je suis pour la débriefer avec Maître Jacques Lévy du barreau de Toulouse. Vous étiez maître l'un des défenseurs avec Éric Dupond-Moretti lors du procès en appel, l'un des défenseurs de Jacques Viguier. Vous avez des nouvelles de lui d'ailleurs, ça fait donc plus de 10 ans maintenant qu'il a été totalement innocenté. Il a repris le cours de sa vie ?
Ah, il ne l'a jamais quitté, il a continué à enseigner, il est toujours professeur d'université à Toulouse.
Alors, personnellement, je suis, et vous le savez sans doute, très respectueux de la vérité judiciaire qui émane d'un verdict d'assises. Mais je me dis que d'autres ne le sont pas. Est-ce qu'il doit encore se battre aujourd'hui contre des gens qui disent « il a eu de la chance, mais c'est lui » ?
Mais malheureusement, vous avez raison. Malheureusement, beaucoup de gens le considèrent toujours comme un coupable potentiel, alors même que les éléments qui ont été démontrés aux 2 audiences, en appel en deuxième instance, mais aussi en première instance, ont démontré son innocence absolue. Le problème qu'il y a eu dans ce dossier, c'est que malheureusement, et là je peux le dire un peu fermement, je trouve que le commissaire qui a mené l'enquête l'a mené strictement à charge, sans aller rechercher... Si...
Le commissaire et le juge ?
Non, pas le juge, le commissaire, Monsieur Sabi, a été extrêmement orienté, et a orienté, bien entendu, par la même occasion, le juge aussi. On a instruit essentiellement à charge contre Viguier. L'un des problèmes essentiels, il faut que vous sachiez que la défense, Leclerc et Catala, en première instance, n'ont jamais eu accès aux écoutes. C'est quand même grâce aux écoutes qu'on a su que la babysitter était rentrée avec Durandet. Il faut que vous sachiez aussi que le matelas dont on a tellement parlé, eh bien, la mère de Jacques Viguier y a dormi pendant 8 jours sur ce matelas, et qu'elle a fait le lit, qu'on n'a jamais vu de traces de sang, que les experts, lorsqu'ils sont venus à la barre, ont dit que les traces de sang étaient microscopiques et qu'elles étaient devenues énormes par le biais de la presse et d'un certain nombre d'exagérations. Donc, il y a eu dans cette affaire une chose terrible, c'est une instruction à charge contre Jacques Viguier. Ça, je dois le dire, et le travail qu'il a fallu faire, tant en première instance qu'en appel, et il a été très bien défendu en première instance aussi, ça a été d'atténuer cette charge constante contre Jacques Viguier, et curieusement, le silence absolu sur Durandet. Quand on prend Durandet en flagrant délit de subornation de témoins, eh bien, il est jugé sur l'heure et il y cope en tout et pour tout d'un rappel à la loi. Voilà, ce sont des choses un peu surprenantes dans le monde judiciaire.
Alors, Olivier Durandet, dans votre esprit, dans la mesure où Jacques Viguier est innocent, est-ce que ça accuse un peu ou pas du tout Olivier Durandet ? Est-ce que c'est un jeu que vous avez joué et qu'en tant qu'avocat de Jacques Viguier, vous jouez encore aujourd'hui ?
Pas du tout. Je n'ai pas pour habitude en tant qu'avocat, d'ailleurs, de défendre mes clients en accusant d'autres. Ce que je constate, c'est que l'instruction et les enquêtes qui ont été faites ont totalement laissé de côté Olivier Durandet, qui avait encore plus de temps que Jacques Viguier de faire disparaître Suzanne Viguier. Mais mon rôle n'est pas là d'innocenter ou d'accuser Durandet. C'est la justice qui doit le faire si elle en a envie. En l'état actuel des choses, il se trouve que le double acquittement de Viguier démontre que lui est innocent. Il est définitivement innocenté dans cette affaire. Après, si la justice se donnait la peine de chercher le véritable coupable, elle peut le faire. Mais en l'état actuel, rien ne permet d'accusé. Oui.
Elle ne le fait pas, il n'y a pas d'enquête.
Ça serait possible, peut-être qu'un jour on découvrira le cadavre de Suzanne, et peut-être qu'un jour on saura que là où elle était, Viguier ne pouvait pas y être en aucune manière. Et je pense que c'est le cas. Par contre, bon, c'est vrai, Durandet, il a eu du temps, voilà. Et c'est tout ce qu'on peut dire, je ne peux pas accuser davantage.
Je voudrais en revenir au verdict de Maître Lévy. Que disent les jurés, selon vous? Ils disent qu'il est à tous les coups innocent, ou ils disent on n'en sait rien et donc on applique la règle qui fait que le doute doit bénéficier à l'accusé?
Écoutez, l'impression qu'on a eue, c'est que les jurés ont estimé qu'il était de toute manière innocent. Et ce n'était pas tellement un acquittement au bénéfice du doute pour eux. Pour eux, ils avaient la certitude qu'il était innocent. Parce qu'il y avait trop de contradictions dans le dossier, trop d'événements qui faussaient la perception du dossier. Une presse, vous l'avez très justement dit, qui a été dans ce dossier très accusatoire. Et en même temps, des contradictions totales avec des réalités qui ont créé un trouble autour de Jacques Viguier. On a toujours dit qu'il avait, soi-disant, fait des cours sur le crime passionnel, etc. Chose qu'il n'a jamais fait. Jamais, jamais, jamais.
Ça n'est pas du tout un pénaliste.
Non, mais non seulement... Vous savez ce qu'il aime au cinéma? Il aime les comédies musicales. Et on en a fait un spécialiste d'Hitchcock. C'est une aberration. Il n'y a pas un étudiant qui l'a entendu raconter quoi que ce soit sur Hitchcock ou sur des affaires pénales. C'est un homme très simple... remarquablement intelligent, mais qui est extrêmement introverti, un peu timide, et ça lui a joué de mauvais tours, parce qu'il n'a pas su s'exprimer, alors que Durandet est un homme extraverti, qui est allé tout de suite trouver les policiers, discuter avec eux, le dénoncer, etc. Ça a faussé le débat, voilà. Mais ça a duré... un temps infini, cet homme a vécu un calvaire pendant des années. C'est terrible ce que ça peut être pour un homme d'être accusé aussi longtemps et avec une opinion publique qui finalement se met contre lui. Et aujourd'hui, j'espère qu'il a oublié tout. C'est pour ça qu'il n'aime pas trop parler de cette affaire et qu'il n'a plus envie d'en parler, parce que je crois qu'il a trop souffert. C'est surtout ça le problème.
Il y a quelque chose qui sans doute a beaucoup compté, c'est que leurs enfants, à tous les deux, à Suzy et à Jacques, ont pris parti pour le père, alors même qu'ils auraient très bien pu considérer qu'il avait tué leur mère,
oui,
et au contraire être partie civile dans ce dossier.
Vous avez raison, seulement ce qu'on oublie de dire, c'est que la petite, certes elle avait 11 ans, mais quand on l'a interrogée, la petite, alors lui il dit « j'ai cru entendre Suzanne », et la petite dit « maman n'est pas rentrée, maman n'était pas là ». Mais tout ça, on l'a oublié, on l'a gommé. Elle l'a redit à l'audience, mais ça avait été gommé dans le dossier. Donc la question étant de savoir si elle était rentrée ou pas rentrée. On sait désormais, grâce aux écoutes, qu'on a mis un temps fou à écouter. J'ai inutile de vous dire que ça a été un peu long. Mais on sait désormais, que grâce aux écoutes, que Durandet est rentré dans la maison. Et qu'en étant rentré dans la maison, il a très bien pu remettre le sac de Suzanne avec qui il avait passé toute la soirée. Donc, vous voyez que les choses étaient particulièrement orientées au départ. Alors, le travail de Leclerc et de Catala a été très bien fait en première instance. Nous, on a essayé d'en faire autant. Et c'est vrai que grâce au président des Assises, on a pu avoir les écoutes que la défense n'avait jamais pu avoir. Et c'est grâce à ces écoutes qu'on a su que la babysitter montait et que Durandet y était. J'ai mis beaucoup de temps à les écouter, ces écoutes, je vous le cache pas. Ça a été un peu long. Mais on a réussi à trouver des choses très importantes dans ces écoutes que la défense n'avait pas eues en première instance. Et c'est grâce au président des Assises qu'on l'a eu, parce qu'il a bien voulu nous les donner, mais on ne sait pas pourquoi ils ne les ont pas donnés à la défense avant. C'était curieux.
Merci beaucoup, Jacques Lévy, d'avoir accepté de revenir... toutes ces années après sur cette affaire Viguier.
Je vous remercie infiniment.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.